Donc vous me dites si vous m'entendez, ça va là? C'est bon derrière? Oui? Faut que ça soit un peu plus fort. Bon, de temps en temps vous pourrez me le dire parce que moi, j'ai pas une voix qui porte beaucoup. Voilà. Puis je l'oublie après. Donc, l'alimentation. Donc, comme disait Alain tout à l'heure, moi, mon dada depuis toujours, c'est de mourir en bonne santé. Voilà. C'est ça, je me bats depuis plus de 40 ans pour ça. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur, vraiment. Hein. Pour moi et pour les autres. Hein. C'est quelque chose d'important. Alors, je vais vous dire un certain nombre de choses qui sont des vérités banales, hein, au niveau de l'alimentation. Certaines vérités sont très banales, mais en même temps, c'est important de se les répéter. Alors, il y aura plusieurs temps dans ce que je vais vous dire. D'abord, il va y avoir un certain nombre de généralités qui sont en même temps des choses très, très précises. Et ensuite, je vous parlerai de la nature des aliments, quelque chose qui est très important en médecine chinoise, parce que l'alimentation fait partie de la médecine. C'est vraiment un enseignement qui fait partie de la médecine. Vous savez, la médecine chinoise, le premier enseignement au niveau de la médecine chinoise, c'est le Qigong. C'est le premier enseignement. Ensuite, c'est l'acupuncture. Ensuite, c'est l'alimentation. Et c'est quelque chose de très important. Donc, ça fait partie de l'enseignement, ça fait partie de la médecine. C'est pour ça qu'on y attache beaucoup d'importance. Alors, je vais d'abord succinctement vous rappeler comment fonctionne notre système alimentaire. Alors, pour ça, j'ai besoin de vous faire un petit schéma, donc j'espère que vous allez pouvoir tous le voir. Alors, l'alimentation, ça tourne autour de plusieurs organes, et en particulier, vous avez l'estomac. Donc, je vais vous donner l'estomac. Ça va, vous voyez dans le fond? Vous arrivez à distinguer? Oui. Mais l'estomac, vous avez le foie, avec la vésicule biliaire, donc VVB. Vous avez l'intestin grêle. Alors, l'intestin grêle, que l'on appelle aussi le type intestin. Hein. Et vous avez le pancréas, mais les Chinois ne connaissaient pas le mot pancréas. Ils n'en parlaient jamais du pancréas. Ils ont toujours parlé de la rate. Mais la rate comprend pour les Chinois le pancréas. C'est une rate pancréas, toujours. Et il y a un lien dans tout ça. Le rôle de chacun de ces organes, c'est l'estomac, c'est simplement un sac qui est fait pour faire mûrir les aliments. Les brasser, les bouger, voilà. Ça fait mûrir. Donc l'estomac fait mûrir. Et il va faire descendre les aliments dans l'intestin grêle. Et tout ça ne va fonctionner que grâce au couple foie-vésicule biliaire. C'est-à-dire que l'estomac ne pourra vider complètement son bol alimentaire, on appelle ça le bol alimentaire, donc tout son contenu, le contenu de l'estomac, une fois qu'il a été brassé, eh bien, il ne pourra vider vers l'intestin grêle que si qui vient de la ville. Donc si le foie fonctionne normalement, si la vésicule également est capable d'éjecter la bile vers la sortie de l'estomac. S'il n'y a pas suffisamment de bile, à ce moment-là, l'estomac ne va pas faire descendre tous les aliments et tous les liquides, puisque l'estomac lui fabrique de l'acide chlorhydrique pur. C'est le seul qui fabrique de l'acide chlorhydrique pur. Si on met de l'acide chlorhydrique de l'estomac sur le parti de l'intestin, ça fait des trous dans l'intestin. Ça ne fait pas des trous dans l'estomac. Donc vous voyez un peu la capacité de l'estomac. Donc la bile qui arrive à la sortie de l'estomac permet de vider complètement s'il y a suffisamment de bile. Si le foie ne fabrique pas suffisamment de bile, ou si la vésicule est très encrassée et n'envoie pas suffisamment de bile, à ce moment-là, il n'y a pas suffisamment de passage. Donc l'intestin ne va pas recevoir tout, l'intestin grêle ne va pas tout recevoir. Et l'intestin grêle, je vais l'entourer parce que c'est vraiment un organe extrêmement important. Il a un rôle considérable. C'est lui qui assure le tri dans les aliments. C'est-à-dire qu'il reçoit les aliments en bloc et lui, il va faire le tri. Donc il va séparer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Les Chinois appellent ça le pur et l'impur. Donc l'impur va ensuite être éliminé, plus bas, donc par les matières fécales, donc les selles, par le gros intestin, et également l'urine. Voilà, c'est l'impur. C'est un peu quelque chose à éliminer, vraiment.
Et le pur?
Le pur va être utilisé par un rat. Un rat pancréas, le pur va être utilisé. Et le rôle de la rat, c'est un rôle de tirer des aliments, des aliments qui sont purs, qui auront déjà été triés. Lui, il va en tirer l'énergie. Voilà. Il en tire l'énergie. Et cette énergie de la rate, elle va monter vers le haut. Et c'est la rate, en fait, qui va faire monter. Donc cette énergie-là est très importante. Et ça le fait monter en particulier vers le poumon. La rate, c'est elle qui donne l'énergie au poumon. Donc, c'est quand même quelque chose de très important. Et donc, vous voyez, le mécanisme, c'est un peu plus simple que je vous donne là. C'est quand même aussi, c'est beaucoup plus complexe que ça, si on veut rentrer dans les détails. Mais c'est quelque chose de très important. Puisque notre énergie, l'énergie des aliments, donc elle vient de tous ces organes. Et je reviens un instant sur le rôle de l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est donc le grand, celui vraiment qui fait le tri. Et il fait le tri et il assure ses passages dans sa paroi. Or, l'intestin grêle, qui est contenu dans un espace,
vous voyez, qui n'est pas grand, dans cet espace-là, comme ça, là, vous voyez tous,
dans cet espace très restreint autour de l'ombril, là, eh bien, on en a 7 à 8 mètres. Vous voyez, c'est pas mal. Mais la paroi de l'intestin grêle, si on la déplie complètement, alors les gens qui sont occupés, ça fait à peu près 600 mètres carrés. Donc 600 mètres carrés de paroi. Et c'est là-dedans que se fait tout le tri. C'est là-dedans que va être séparé le pur et l'impur. Mais également, c'est dans la paroi de l'intestin grêle qu'on trouve toute une structure chimique qui fabrique notre système de défense, le système immunitaire. Donc c'est grâce à la paroi de l'intestin grêle que l'on peut se défendre contre les infections, contre plein de choses. Et une des caractéristiques de la médecine chinoise, c'est d'avoir aussi, de s'être rendu compte que l'intestin grêle, non seulement il digère les aliments, mais il digère aussi les informations. C'est-à-dire que quand vous mangez en faisant la grimace à votre conjoint, par exemple, eh bien, c'est une information que l'intestin grêle va digérer ou mal digérer. Et ça peut créer des problèmes. Vous voyez ? Bon, si on mange, c'est une des raisons pour laquelle les informations à la télé, il faut les éviter en mangeant. Parce que de mauvaises informations vont vous attaquer et l'intestin grêle ne peut pas se préparer à ce moment-là. Il ne peut pas travailler correctement. Donc, au lieu de, à ce moment-là, l'intestin grêle, au lieu de permettre à la rate d'apporter de l'énergie, eh bien, il va tout éliminer comme impur. Donc, on va se retrouver à ce moment-là avec des troubles digestifs. Quels sont les premiers troubles qui peuvent apparaître ? Des ballonnements. Il y en a bien dans la substance qui ont quelquefois des ballonnements. Hein, ça peut arriver. Eh bien, beaucoup de personnes se retrouvent avec des troubles de ce type parce que les informations n'ont pas pu les digérer correctement. Alors, l'intestin grêle, maintenant en médecine occidentale, on commence à en parler. Je dis bien, on commence. Alors que les Chinois, ça fait plus de 2000 ans qu'ils en parlent. Nous, on commence à en parler dans la plupart des maladies actuelles. Y compris, l'autre jour, en voyageant, en passant à l'aéroport, je tombe sur la revue Science et Vie. Et en fait, c'était le rôle de l'intestin grêle dans la maladie de Parkinson. C'est maintenant prouvé que l'intestin grêle a un rôle dans la maladie de Parkinson, un rôle très important. C'est à partir de l'intestin grêle qu'il y a destruction de certaines cellules du cerveau qui est en rapport avec ce passage à travers la paroi de l'intestin grêle. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très important, c'est pour ça que dans l'alimentation énergétique, on fait très attention à cet intestin grêle et qu'on va le nettoyer, on va l'aider à avoir suffisamment de microbes en équilibre, etc. Quand on prend par exemple un antibiotique pour une infection, l'antibiotique va détruire certains germes. Il va détruire bien sûr les germes en rapport par exemple avec une angine, mais il va aussi détruire dans l'intestin des germes qui étaient jusque-là en équilibre. Il va les détruire. Et à ce moment-là, certains autres germes vont se mettre à pulluler. Ils vont être trop importants et ils vont donc déclencher autre chose. Et si ces germes pullulent, ils vont traverser la paroi, passer dans le sang, et à ce moment-là, aller attaquer d'autres cellules, etc. Voilà le mécanisme de la plupart des maladies, en particulier des maladies neurologiques, et de toutes les maladies du système immunitaire. Donc on a quand même quelque chose là de très important, et c'est pour ça que notre alimentation, il faut en parler beaucoup. Donc je vais laisser un peu le schéma comme ça,
là, on va parler
directement maintenant de l'alimentation. Et tout à l'heure, je vous ferai un autre schéma pour
vous
parler des organes, parce que les organes ont un rôle très important dans l'alimentation. Alors, plusieurs rubriques, des choses toutes simples. Un aliment, il y a d'abord la vitalité de l'aliment. Alain en a parlé un peu tout à l'heure. Cette vitalité de l'aliment, elle va dépendre de son aspect extérieur. Un aliment, il doit être frais. Il doit être frais. Et vivant. Quand un aliment est juste cueilli, vous prenez un aliment juste cueilli, il a une quantité de liquide suffisante dans sa texture. Mais si plus vous allez attendre pour le consommer, vous attendez un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, 5 jours, plus vous allez attendre, plus il va se dessécher. Et à ce moment-là, il va perdre sa vitalité nourricière. Vous voyez, pour les Chinois, la vitalité nourricière, c'est le, ils appellent ça le qing. Le qing qui est l'énergie, qui est l'énergie nourricière. Eh bien, cette vitalité nourricière, alors le qi. Cette vitalité nourricière, elle est extrêmement importante. Un aliment que vous allez couper, par exemple, vous allez le couper et vous allez le conserver au réfrigérateur, en disant, comme ça, dans 2 jours, dans 3 jours, je vais pouvoir le manger. Bon, je pense, par exemple, ne serait-ce que des carottes râpées, par exemple. Prenez des carottes râpées et vous en faites pour 3 jours, 4 jours. Le 4e jour, ce n'est plus des carottes râpées que vous mangez, c'est du carton. Hein? C'est pas plus. C'est-à-dire que la vitalité de la fameuse signe ne vous sert plus. Donc, ça ne va plus servir pour augmenter l'énergie de la personne. Allez, on a besoin de cette énergie pour vivre, pour se défendre. Donc ça, c'est la vitalité des aliments. La quantité des aliments. Ça peut vous sembler étonnant que je parle de la quantité. La quantité dans un repas, par exemple. Eh bien, les Chinois nous disent toujours 1/3, 2/3. 1/3, 2/3, toujours. C'est-à-dire qu'on remplit notre corps de 2/3 et on garde toujours 1/3. 1/3 de vide. C'est-à-dire que si vous finissez un repas en disant « Ah, oh, j'ai bien mangé, je suis plein. » Là, c'est 3/3. Hein? Par contre, si vous terminez le repas en disant « Ah, oh, je pourrais encore prendre quelque chose. » Eh bien là, c'est 2/3, 1/3. C'est-à-dire que vous gardez 1/3 en même temps des organes qui vont se reposer. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être saturés. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que l'énergie, à ce moment-là, nécessaire pour la digestion, va pouvoir être gardée pour 1/3 en réserve. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et ça, quand on est en Chine, ils nous disent tout le temps 1/3, 2/3. Hein, ça, c'est clair. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que en Chine, vous n'avez pas de dessert. Dans les restaurants chinois en France, souvent on met des desserts, mais bon, ils se forcent pour mettre des desserts. Et en fait, c'est pas leur culture de mettre des desserts. On arrête sur le plat de résistance. À la limite, à la fin du repas, ils nous apportent une soupe. La soupe, ils apportent à la fin du repas, ils n'ont pas au début. Et ça, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir en même temps quelque chose de chaud à la fin du repas. Ne jamais terminer un repas sur du froid. Ça, c'est essentiel. Le froid bloque la digestion. Il va bloquer. Le froid va nous obliger à un travail considérable pour remonter la température, parce que l'absorption du froid, une glace à la fin du repas, par exemple, la glace à la fin des repas, eh bien, vous absorbez la glace, c'est un froid qui arrive. Et à ce moment-là, donc il est, mettons, à 0 degré, hein, et le corps est obligé de ramener, de faire un travail énorme pour ramener la température à 37 degrés. On fonctionne à 37 degrés à l'intérieur. Hein. Donc si on fonctionne à 37 degrés, on dépense une énergie folle qu'on pourrait peut-être utiliser pour faire autre chose. Hein. Et donc la glace, si vous voulez en manger, vous la mangez en dehors des repas ou au début du repas, mais pas à la fin. Ça, voilà. Ça semble poser des problèmes. Oui, ça explique pourquoi on s'endort à la fin des repas. Hein? Si on prend du chaud à la fin des repas, on ne va pas s'endormir. Parce que là, on aura vraiment d'énergie. Surtout si on a fait 2/3, 1/3. Hein? Si on a fait vraiment un repas énorme, là, après, non. Hein? Obligatoirement, on s'endormira, on aura un moment de somnolence. À ce moment-là, bon, on garde les sièges devant, puis on peut même dormir. La sieste à la fin d'un pas, c'est 3 minutes. Au bout de 3 minutes, il n'y a plus besoin. Nous, quand on est en phase, par exemple, en phase de Qigong, eh bien, la sieste est obligatoire. En phase de Qigong. Et cette sieste-là, ça dure 3 minutes. Ça dure le temps qu'on s'assoupit. Si par exemple on a une cuillère dans la main, alors on tient une cuillère dans la main, on s'assoupit et à ce moment-là on relâche. La cuillère tombe et ça nous réveille. Et c'est terminé, la sieste est finie. Voilà. Vous pouvez tester ça et vous verrez que c'est très efficace. Une sieste de 2 heures, c'est très fatigant. Alors le rythme des repas aussi. Le rythme des repas, ça va, vous entendez toujours là-bas? Vous me le dites si vous n'entendez pas. Le rythme des repas, c'est... Les repas doivent être pris à des moments fixes. Ce ne sont pas des heures fixes. Vous voyez très bien, comme je disais souvent, j'ai souvent dit quand on disait à quel moment vous mangez, à quelle heure vous mangez. Bien, quand j'étais en pleine activité, je disais toujours je mange à l'heure fixe. C'est-à-dire le midi c'est entre midi et 30h, et le soir c'est entre 19h et 24h. Voilà, c'était à peu près ça. Donc c'est des moments fixes. C'est pas des heures, vous voyez. Certaines personnes qui disent, oh ben moi, si c'est pas 19h pile le soir, je ne suis pas bien. Ou midi pile, je ne suis pas bien. Non. Bon, c'est une marge. Et bon, l'essentiel, c'est de ne pas sauter des repas. Ne sauter jamais des repas. Quelqu'un, par exemple, qui a un excès de poids, qui veut perdre du poids, s'il saute des repas, il prendra du poids. Ça, c'est connu, c'est une vérité qu'on a tout le temps. Pour prendre du poids, sauter des repas. C'est le meilleur moyen. Pour perdre du poids, d'ailleurs, le meilleur moyen, c'est de faire 3 grands repas par jour. Y compris le matin. Le matin, c'est un grand repas. Alors, dans les quantités d'aliments, je reviens un petit peu aux quantités d'aliments, selon le moment de la journée. Les Chinois ont une phrase que je peux vous donner, c'est Zhao Kan Hao, Wu Kan Bao et Wan Fan Shao. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le matin, le repas doit être bon, le repas du midi doit rassasier, le repas du soir doit être léger. Voilà. Donc c'est quelque chose d'important. Le repas du soir doit être léger, en particulier si on se couche tard. Si on doit se coucher tard, le repas du soir doit être léger. Parce que qui dit repas dit travail des organes pour digérer. Donc si les organes travaillent, ils vont travailler à ce moment-là dans la nuit, et en fonction des organes, des heures, eh bien, on va se réveiller. Si on a bien mangé le soir, on va se réveiller. Les heures, par exemple, du foie et de la vésicule biliaire, c'est la nuit. Ensuite, c'est le poumon, etc. Donc, en fonction du travail que ces organes vont faire, eh bien, à ce moment-là, il y aura un réveil la nuit. Ce sont des personnes qui vont se réveiller, par exemple, à 2h du matin, toutes les nuits, alors, ils s'étonnent, ils disent, bah oui, je me réveille à 2h du matin. Eh bien, en fait, c'est parce que l'organe, qui est là, le foie, lui, il se met à fonctionner. Donc, il va utiliser de l'énergie. Donc, il va réveiller la personne. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Donc, quelqu'un qui se réveille à 2h du matin a besoin de se poser des questions à propos de son foie. Donc, vous verrez tout à l'heure comment on se pose des questions sur le foie et ce qu'il faut faire. J'en parlerai tout à l'heure. Le matin, je reviens donc à la quantité des aliments. Au petit déjeuner le matin, il faut des aliments chauds. C'est une erreur monumentale de prendre des jus fruits. Les jus fruits du matin, c'est un apport de sucre rapide. Quels que soient les jus fruits, si vous pressez une orange, par exemple, vous prenez une orange, vous la pressez, vous buvez le jus, d'abord c'est froid, et en plus, le fait de boire, ça ne sera pas mélangé à la salive, de boire ce jus fruit. Et le fait de ne pas le mélanger à la salive, à ce moment-là, ça devient du sucre rapide, avec toutes les conséquences du sucre rapide chez les personnes qui, par exemple, ont tendance à avoir du diabète, ou avoir un peu trop de sucre, ou autre, eh bien, à ce moment-là, ça va augmenter le taux de sucre et favoriser les chutes du taux de sucre toutes les 2 heures. Donc, toutes les 2 heures, ce sont des personnes qui vont avoir soit la fringale, soit un vide dans la tête, soit une grande fatigue, soit la voix. Et c'est toutes les 2 heures que ça va se produire. Je prends souvent un exemple pour indiquer comment ça fonctionne. C'est exactement comme si à la surface de l'eau, vous jetez une pierre. Vous jetez une pierre et vous avez autour du point d'impact des ronds qui vont se manifester. Et ces ronds vont aller à l'infini, vont aller en diminuant. Eh bien, chez les personnes qui ont une fragilité au niveau des sucres, qui ont déjà un trop de sucre, le fait de prendre un aliment sucré le matin au petit déjeuner, c'est bien le matin au petit déjeuner, pas dans la journée, le matin, ça va leur favoriser des hypoglycémies, donc des chutes du taux de sucre, toutes les 2 heures, ces fameux ronds, ça va aller en diminuant, et ça va aller sur 36 heures, c'est plus de 24 heures. Donc si on fait ça tous les matins, évidemment, on n'est pas bien à la fin. C'est renouvelé de plus en plus, etc. Voilà. Et ça, c'est particulièrement mauvais. Pourquoi le sucre rapide, le sucre de l'orange pressée, est vraiment du sucre, alors que si vous mangez l'orange, vous n'absorbez pas ce sucre. Parce que c'est mélangé à la salive. Vous voyez, la salive joue un rôle important dans notre alimentation. Donc si quand même vous aimez les fruits, vous dites, moi je ne peux pas m'en passer, c'est vraiment pour moi un régal, j'aime bien, eh bien à chaque gorgée, vous prenez un morceau de pain. Et donc vous mastiquez. Et là, vous n'absorberez pas les sucres rapides. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc au petit déjeuner, des boissons chaudes, des aliments chauds le plus possible et des sucres lents. Alors, les sucres lents, ça peut être tout ce qu'on veut. Vous pouvez très bien manger le matin du riz, des pâtes, voilà, il n'y a aucun problème. Ce que faisaient les anciens. Les anciens, ils faisaient un repas le matin. Et par quoi ils commençaient? Ils commençaient par de la soupe. Eh bien, voilà, prenons exemple. Vous voyez, et ça nous apporte de l'énergie, une énergie importante, qui est nécessaire quand même à notre vie. On vit de cette énergie. Le soir, je vous l'ai déjà dit, là tout à l'heure, il faut manger quand même assez tôt pour que les organes soit au repos quand on se couche. Donc c'est vrai que plus on mange tôt, plus ensuite les organes vont être tranquilles. Parce que quand on mange, on met en route l'estomac, on met en route les intestins, on met en route le foie, la vésicule biliaire, la rate. Vous voyez quand même que ce sont des organes importants. Et tous, ils consomment beaucoup d'énergie. Donc, si on veut être tranquille la nuit, on a besoin de calme pour tous ces organes. Donc le soir en particulier, il faut vraiment se dire, je fais vraiment 2/3, 1/3. Même je dirais, je fais 1/3, j'avale des aliments, et 2/3, je laisse le vide. C'est-à-dire que je sors de table avec la faim. l'impression d'être encore vide au niveau de l'estomac. Ça, c'est le meilleur système, si vous voulez, dormir et avoir un sommeil réparateur. Il ne faut pas trouver étonnant que souvent le sommeil ne soit pas réparateur. C'est quelque chose d'essentiel. Un sommeil réparateur, il a besoin d'un repos. Alors, les variations de quantité d'aliments en fonction de notre activité aussi.
Bon,
quelqu'un qui fait un travail de force a besoin d'une quantité plus importante. Quelqu'un qui fait un travail comme font la plupart des gens actuellement, un travail sédentaire, donc plutôt assis, où l'activité physique est très peu importante, eh bien, on a besoin, quand on est sédentaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on bouge très peu. Quelqu'un qui est sédentaire, il est assis sur sa chaise, ou il fait très peu de choses, il bouge peu. Donc, s'il bouge peu, il a besoin d'aliments qui vont dynamiser son énergie. Des aliments qui vont le dynamiser. Alors, quels sont les aliments qui vont dynamiser, surtout, donc qui mobilisent l'énergie? Eh bien, ce sont des aliments qui ont tiré leur bénéfice du soleil, et en particulier tout ce qui pousse un petit peu haut. Qu'est-ce qui pousse un petit peu haut dans la nature? Les fruits. Les fruits qui poussent haut, qui bénéficient du soleil. Donc les fruits, et puis également les légumes frais, les légumes qui montent. Voilà. Donc il y en a un certain nombre. Les choux, vous avez les tomates, vous avez plein de légumes comme ça. Donc quand on est sédentaire, on a besoin de manger beaucoup de fruits. Bon, je ne parle pas de la fameuse campagne de la télé, 5 fruits et légumes par jour, ça c'est quelque chose. Maintenant, la pub à la télé, il faut regarder la pub à la télé pour savoir ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Ça, c'est le professeur Joyeux de Montpellier qui disait ça, et je crois qu'il avait tout à fait raison. Regardons bien la pub à la télé, et comme ça, on sait ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut pas acheter, voilà, ce qu'il ne faut pas conseiller. Alors, selon aussi notre âge, bon, là, on est des personnes d'âge très différent, et bien on n'a pas les mêmes besoins. On n'a pas les mêmes besoins selon notre âge. Bon, là, il n'y a pas de jeunes enfants, mais bon. Chez un jeune enfant, les organes, ils ne sont pas encore matures, ils ne sont pas finis. Chez un jeune enfant, il ne faut pas hésiter. Alors, j'appelle jeune enfant, l'enfant entre le nourrisson et puis l'âge de 10-12 ans. C'est-à-dire un peu le primaire, celui qui va en maternelle et en primaire. Gros, voilà. Eh bien, le jeune enfant, comme ses organes n'ont pas tout à fait fini leur maturation, il a besoin d'un quatrième repas par jour. Parce qu'il a besoin de plus. Il a besoin de manger un peu plus souvent. Donc, c'est classiquement, c'est goûter. C'est goûter. Mais attention, c'est le jeune enfant qui a besoin de ça. Bon, tout le monde comprend. Mais pourquoi prévoir un quatrième repas? Parce qu'il faut éviter de saturer les repas d'enfants. Si on lui fixe selon le principe des 2/3, 1/3, on lui apporte beaucoup plus un repas, eh bien, il ne va pas pouvoir digérer correctement, il n'aura pas l'énergie qu'il lui faut. Et s'il y a des personnes qui sont là, enseignantes ou autres, vous pouvez vous rendre compte que de nombreux enfants ont des moments difficiles dans la journée pour apprendre. Ils sont loin de tout, quoi. Parce que leur cerveau qui tire bénéfice, qui tire l'énergie des aliments, là, il ne peut pas recevoir cette énergie normalement. Vous savez, l'enfant qui apprend mal à l'école ou qui est souvent dans la lune, c'est souvent un enfant qui est mal nourri. Donc il faut y penser à ça. Hein. Même que l'enfant hyperactif aussi, c'est un enfant qui n'a pas la nourriture qui lui convient. Dans la mesure où là je parle d'hyperactif, l'hyperactif, ça dépend de l'énergie du foie. C'est le foie qui est chargé. Alors il y a des personnes qui vont du Qigong vont bien se souvenir. Le foie est un organe qui a autant de yin que de yang, donc autant d'énergie du ciel que d'énergie de la terre. Mais si le foie est chargé d'un excès d'énergie du ciel, à ce moment-là, il va y avoir une activité débordante. C'est l'enfant qui, quand il est très fatigué, va aller courir. Hein. Chez la personne adulte aussi, ça peut se faire. Hein. Quelqu'un qui a une grande fatigue et qui a cette énergie du foie comme ça, c'est-à-dire très, très yang, si vous voulez, donc très hyperactive, eh bien, plus il va courir, plus il va se reposer. Ça va lui faire beaucoup de bien. Alors que d'autres qui sont bien fatigués, ils vont se coucher pour améliorer leur fatigue. Donc il y a deux grands types de fatigue en médecine chinoise, vous voyez. Et l'alimentation qui est l'alimentation qui augmente le yang du foie, donc cette énergie du ciel, hein, l'énergie qui vient du centre du ciel. Donc l'enfant qui a cet excès-là, il faut éviter à tout prix les aliments qui vont augmenter ce phénomène. Et donc, ils vont augmenter le yang. Qu'est-ce qui va augmenter le yang? En premier lieu, les sucres rapides. Donc, toutes ces boissons, tous ces jus de fruits, et en particulier, alors là, les boissons du commerce, hein, qui sont tous les sodas, et surtout les fameuses boissons light, les légères, etc. Ça, ce sont des catastrophes, parce que dedans, en plus, il y a des exhausteurs de goût qui vont être en plus des acides, donc le foie va souffrir considérablement. Donc ce sont des enfants qui vont être de plus en plus hyperactifs. Ils sont intenables, invivables, en famille, à l'école, un peu partout. Ils bougent tout le temps, on ne peut pas les arrêter. Et ça, c'est pas rare actuellement. Il y en a de plus en plus dans notre société parce qu'on a une alimentation de plus en plus déséquilibrée. Mais on peut y faire quelque chose. On peut réduire ces aliments-là. Donc chez l'enfant, il faut aussi utiliser beaucoup les fruits, les légumes et aussi les céréales. Les céréales cuites. Hein, les céréales cuites. Donc les céréales là, du matin, là, ces céréales flocons qui sont prises comme ça, c'est pas cuit ça. Hein? C'est pas cuit, ça, il est important d'avoir des céréales cuites. L'adolescent et l'adulte jeune, de quoi il a besoin? On peut dire que l'adolescent et l'adulte jeune, c'est 45 ans, en gros, hein, il ne faut pas trop généraliser. Mais là, les organes, ils sont à maturité. Donc, il faut vraiment utiliser la règle de tiers un tiers. Voilà, cette règle-là, c'est important. Et ne pas. Et surtout, à cet âge-là, on est tous passés, on a l'impression de digérer n'importe quoi. On dit, moi, je digérerai les pierres. Hein? Voilà, ce qu'on dit souvent, on va digérer les pierres. On est capable de tout. C'est aussi l'ado et l'adulte jeune qui va faire des grands excès de boissons, grands excès d'alcool, enfin de tout ce qu'on veut, et en disant, ben moi je ne fais rien de toute façon, je vais m'en week-end comme ça, après je fais autrement, voilà. Oui, mais les lésions se font dans cette période, hein, les lésions des organes. Et ensuite, il va commencer à en souffrir après 35 ans. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Bon, ce sont des vérités, la plupart de vous connaissent ces choses-là. Hein, c'est quelque chose d'important. Et les organes qui sont le plus atteints par tous ces excès, c'est l'estomac et la rate. Donc il y a un rase pancréatique. Et c'est une des raisons à l'heure actuelle pour laquelle on voit beaucoup, enfin une prolifération des cancers du pancréas. Il y en a de plus en plus. Parce que ce sont des cancers qui évoluent à bas bruit pendant très très longtemps. Ils ont été lésés très tôt et les personnes ont des organes qui ont été lésés très tôt et puis bon, après, un jour ou l'autre, il y a un surplus et l'évolution se fait. Un des signes dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure qui annonce en fait ces troubles-là, ce sont les ballonnements. Les ballonnements, c'est un des grands signes, de troubles en rate pancréas. Ballonnement, d'abord c'est bon, l'impression d'être lourd, surtout après les repas, et puis petit à petit au fil des années s'installe en plus des douleurs. Et quelquefois en plus des diarrhées après les repas. C'est la personne qui va systématiquement après chaque repas à la salive. Et ça, ça traduit un organe, la rate, en manque d'énergie. Et donc, il va falloir l'aider, cette rate. Donc, on peut l'aider par des aliments, on peut l'aider de différentes façons. Bon, l'alimentation est importante pour ça. Et donc, ça, c'est les premiers troubles qui apparaissent donc après par ces effets. Et un autre trouble qui lui apparaît qui survient après, ce sont les troubles du sommeil. Et les troubles du sommeil de milieu de nuit. C'est la personne qui va se réveiller au milieu de la nuit, être réveillée pendant une ou deux heures. Combien de fois j'entends des personnes, en particulier des femmes, me dire, eh bien, moi, à 2h, 3h du matin, je me lève, je fais un repassage. Je fais un peu de repassage. Puis je me recouche une heure après, et là, je redors. C'est pas très normal, quand même. Et ça, je l'entends souvent. C'est pas rare. Il y a d'autres qui se damnent, qui, à ce moment-là, bon, c'est différent. Mais c'est pas normal. C'est véritablement, ce sont ces troubles-là, et en particulier les troubles liés à la rate. On verra tout à l'heure comment cette rate, on peut l'équilibrer. Et la personne âgée, elle, eh bien, on retombe sur l'alimentation de l'enfant, du jeune enfant. La personne âgée, c'est toutes les capacités des organes sont réduites, puisque bon, plus on vieillit, plus on diminue. Ça, c'est quand même connu, tout le monde le sait. On s'en rend compte. Et on diminue tout doucement, progressivement. Disons que on s'éteint petit à petit, jusqu'au moment où il n'y a plus d'huile dans la lampe, donc on va s'éteindre complètement. Donc on va mourir en bonne santé. Mais on va mourir avec quand même des organes qui auront fini leur activité. Eh bien, la personne âgée, plus la personne est âgée, plus elle doit faire de repas nombreux. Voilà. Il faut qu'elle fasse des petits repas nombreux. Donc une personne âgée, c'est important qu'elle puisse faire un petit déjeuner, un petit goûter, une petite collation en milieu de matinée, un repas à midi, une collation vers 4 heures, un repas le soir, et si c'est une personne qui a l'habitude de se coucher tard, il faut aussi qu'elle mange un petit peu plus tard. Mais pas des grosses quantités. Alors certains disent, ah ben oui, moi devant la télé, je mange une tablette de chocolat. Mais bon, on n'est pas là. Et il faut trouver son truc à soi. C'est important. Et c'est nécessaire pour que notre énergie soit suffisante. Si la personne âgée ne fait par exemple que 2 repas par jour, ou pour la plupart, pour beaucoup, ne fait qu'un repas par jour, eh bien, leur énergie va décliner très rapidement. Ce sont des personnes qui vont avoir beaucoup de problèmes, soit un problème cardiaque, soit un problème cérébral ou autre. Mais c'est une source en particulier, le fait de ne pas manger suffisamment chez une personne âgée, c'est source de problèmes au niveau du cerveau. Et beaucoup de personnes âgées qui perdent la tête sont souvent des personnes âgées qui mangent mal, qui ne mangent pas suffisamment, qui n'ont donc pas l'énergie qui convient. Et ça c'est quelque chose d'essentiel au fonctionnement de la cellule nerveuse. Alors,
l'alimentation selon
les moments de notre santé. Si on est en mauvaise santé, si on ne va pas bien, quand on a aussi de la fièvre, des choses comme ça, qu'est-ce qu'on doit manger ? Bien, on doit manger peu d'abord. Hein, quand on n'est pas bien, on doit manger peu. Mais on doit manger chaud, toujours. Quand on n'est pas bien, on doit manger chaud. Et on doit boire chaud, même pendant les repas, pour permettre à notre organisme un certain repos. Il y a une partie des organes qui va être au repos à ce moment-là. Donc c'est important de manger et de boire chaud. Donc des soupes, des bouillons de légumes, etc. C'est quelque chose de très important. Si on mange trop, à ce moment-là, on épuise l'énergie de l'estomac, que l'estomac est de la rate. À ce moment-là, leur énergie fiche le camp. Alors, maintenant, aussi selon les saisons. Selon les saisons, l'alimentation doit être différente. Bon, elle est déjà différente parce qu'on n'a pas toujours les mêmes légumes. Hein, selon les saisons, on n'a pas forcément les mêmes légumes qui poussent. Au printemps, l'énergie apparaît progressivement. Donc il faut, au printemps, des aliments de saveur douce. On verra tout à l'heure un peu les saveurs. Les aliments de saveur douce, c'est-à-dire des saveurs un petit peu sucrées. Parce que ça tonifie l'énergie. Vous savez qu'au printemps, l'énergie monte dans la nature. Tout monte, la fève monte dans les arbres, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qui se remet en route. Au printemps, ça va être très bientôt. Et au printemps, il faut éviter plutôt les aliments piquants. Alors, qu'est-ce qu'on a comme aliments piquants ? Eh bien, on a, par exemple, l'ail, la ciboulette. Mais en général, elle n'est pas très bien poussée, sauf que cette année, elle n'est pas vraiment partie. Et tous les piquants, le poivre, et pas d'excès de gingembre au printemps. Hein, le gingembre, on peut en prendre un petit peu, mais surtout pas en excès, car le piquant diminue à ce moment-là l'énergie au printemps. Et ça, c'est quelque chose de constant. Donc, peu d'aliments piquants au printemps. Ce sont plutôt des aliments doux. Alors, les aliments doux, ce sont les aliments sucrés. Voilà. Et on peut très bien prendre un peu d'aliments sucrés. Et en les évitant de déjeuner quand même. Il faut les prendre au moment des repas. Donc, éventuellement, vous pouvez manger un peu de confiture, par exemple, d'un repas, etc. Mais terminer aussi par une boisson chaude. C'est vrai que le café après le repas de midi n'est pas mauvais. Contrairement à ce qu'il dit. Bon, le thé aussi, c'est bon. Mais on peut aussi boire de l'eau chaude, ça suffit. L'eau chaude, c'est la seule chose indispensable. Après, on peut rajouter des choses dedans, mais c'est essentiellement l'eau chaude. D'ailleurs, en Chine, quand on est en Chine, quand on suit des cours, par exemple, eh bien, on a toujours sur la table, on nous sert toujours de l'eau chaude. Tout le temps. Toute la journée, on a de l'eau chaude. Même à l'hôpital, quand on vient à l'hôpital, on nous sert de l'eau chaude. Vous voyez, c'est un aliment essentiel. C'est quelque chose de très important. Parce qu'ils savent que ça permet à notre organisme de garder de l'énergie. Alors en été, normalement, il fait chaud. Donc il faut essayer de rafraîchir, donc d'utiliser des aliments qui refroidissent. Eh bien, qu'est-ce qui refroidit par excellence ? Ce sont les aliments crus. Les aliments crus et aussi les fruits. En général, ce qui est cru et les fruits refroidissent. Alors, il y a certaines années, je l'ai dit en chicon cette année, par exemple, hein, je l'ai répété toute l'année, vu que l'année 2011 était une année à manque d'énergie terrain et avec du feu, mais il y avait, bon, ça se manifeste puisque l'année 2011, statistiquement, est l'année la plus chaude du siècle. Hein, pratiquement, enfin, c'est ce que j'ai entendu à la radio. Hein. Et donc, c'est une année où il y a eu du feu, mais l'énergie des reins était faible. Et cette énergie des reins faisait que on avait besoin quand même de la chaleur, même en été. Donc, quand on a besoin de la chaleur et qu'on doit manger des aliments crus, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met, par exemple, les crudités, les carottes trempées, tout ce qu'on veut, dans un wok, et pendant une minute à feu vif, on les fait chauffer. Ça donne en plus un goût à l'aliment qui est extraordinaire. Conseil de tester, vous verrez. Et là, à ce moment-là, on a de l'aliment, on a à la fois du cru et du chaud. Donc, ça nous permet d'éviter cette chute d'énergie qui autrement se produirait. Donc, c'est quelque chose qui est très facile à faire. Hein. C'est pour ça que les wok, le plat qu'on appelle le wok chinois, est très intéressant. Parce que ça cuit très vite dedans. Ça chauffe très très vite. Alors à l'automne, c'est une période normalement de sec. Alors l'automne chinois va de la mi-août au début novembre. L'automne solaire. Eh bien cette période-là, c'est plutôt du sec normalement. Alors que, bon, c'est vrai qu'on a habituellement, on parle de l'humidité d'automne, etc., mais l'automne, c'est du sec, et cette année, l'automne a été très sec, d'ailleurs. Bien, à l'automne, on a besoin d'aliments qui vont donc humidifier. Et donc, qui vont humidifier. Et les aliments qui humidifient, ils vont en même temps tonifier l'énergie. Un aliment qui humidifie, eh bien, par exemple, c'est le miel. Le miel est un aliment qui apporte à l'organisme la possibilité de s'humidifier. L'automne, c'est la saison du poumon. Et le poumon, de nombreuses personnes, par exemple, les sécheresses de la peau. La peau, c'est le poumon. Mais les sécheresses de la peau, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre du miel. Prendre du miel, et le miel va vous aider en fait à avoir une peau beaucoup moins sèche. Mais également les poires, c'est important, mais aussi les œufs. Les œufs vont permettre d'humidifier. L'hiver, c'est la période du froid. Bon, cette année, ce n'est pas le cas. Hein, cette année, c'est tiède, c'est pas du froid. Mais l'hiver, on a besoin d'aliments tièdes ou d'aliments chauds. Donc, des tièdes et des chauds. On verra tout à l'heure, d'ailleurs, je vais apporter les classifications des aliments qui pourront être par la suite diffusés. Je pense qu'au niveau du foyer, ça pourra se faire de diffuser. J'ai deux tableaux comme ça qui pourront être diffusés. Avec les classifications des aliments en fonction de leur nature et de leur saveur. Donc vous y retrouverez comme ça. Hein? Parce que là maintenant on va voir la nature des aliments et ensuite on verra leur saveur. Les Chinois parlent de beaucoup de, quand ils parlent de diététique, parlent de la nature des aliments, ils parlent de la chaleur des aliments. Qu'est-ce que ça veut dire? La nature des aliments, c'est l'effet thermique que l'on va ressentir quand on mange un aliment. Quand on mange certains aliments, par exemple, ou quand on boit certains aliments, buvez de l'alcool, par exemple. Hein, vous buvez de l'alcool, et de nombreuses personnes diront, ben, ça monte à la tête, j'ai chaud à la tête. Voilà. C'est la nature de l'alcool, c'est la chaleur. Voilà. Hein, voilà ce que ça signifie. Alors, les Chinois ont classé les aliments selon leur nature. Alors, on a trois types de nature. On a trois types de nature d'aliments. On a la nature fraîche ou froide. On a la nature chaude ou tiède. Et on a la nature neutre. Et donc, on a besoin de ces natures d'aliments selon les problèmes que l'on peut avoir. Voilà, on rentre là dans les troubles que l'on peut avoir soi-même. Quelqu'un qui a toujours froid, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner du chaud. Hein? La médecine chinoise, c'est de la jugeote. Hein? C'est pas autre chose. Hein? Ça vient de l'observation, donc c'est quelque chose de très simple. Donc on va lui donner du chaud, donc on va réchauffer. Mais également, une personne qui a un ralentissement de ses fonctions, quelqu'un qui va avoir un ralentissement, par exemple, de l'intestin. Un ralentissement de l'intestin, c'est quoi? La constipation, tout bonnement. Et bien, quelqu'un qui va avoir un ralentissement de l'intestin aura besoin d'une alimentation chaude. Car qui dit ralenti, qui dit lenteur, dit chauffage. Il faut chauffer pour faire circuler. Hein? Les grands types d'aliments qui réchauffent, vous avez les viandes. Les viandes de toutes sortes qui réchauffent. Également les poissons. Les poissons réchauffent en général. Vous avez les épices. Alors certaines plus que d'autres. Hein? Certaines épices qui vont réchauffer plus que d'autres. Donc les alcools, on vient d'en parler. Et vous avez des aliments particuliers qu'on trouve facilement. Les abricots réchauffent. Les cerises réchauffent. La châtaigne. La pêche. Oui, ce sont des aliments qui réchauffent. Et même si on les a en conserve, ce sont des aliments qui réchauffent. À condition que ce ne soit pas vraiment des conserves du commerce, où on a rajouté plein d'autres choses. Hein, que ce soit quelque chose de nature, hein, véritablement. Quelqu'un qui a trop chaud, on va chercher à refroidir. Alors, il a trop chaud, pourquoi? Parce que ça peut être une grande chaleur dans les années, par exemple l'année 2003, où il y a eu la canicule, il fallait chercher à refroidir à ce moment-là. Hein, c'était un moment idéal pour rafraîchir quand même. On n'avait pas besoin à ce moment-là d'aliments qui réchauffent. Hein. Eh bien, également en cas de fièvre, si on a une fièvre importante avec chaleur, il y a des fièvres avec froid aussi. Certaines fièvres sont accompagnées de froid. Dans la grippe, par exemple, vous avez une période de froid et une période de chaud. Voilà, la grippe, c'est assez caractéristique. On a froid ou chaud. D'ailleurs, les Chinois décrivent deux sortes de grippe. La grippe de type froid, la grippe de type chaud. Et selon, on n'a pas le même traitement. Mais quand il y a une fièvre avec une forte chaleur, on va refroidir. Eh bien, qu'est-ce qui refroidit? Tout à l'heure, on l'a déjà un peu vu. Ce sont qui refroidit, il y a les fruits. Hein. Mais les fruits d'été. Les fruits d'été, alors, la cerise en fait aussi partie des fruits d'été. Mais la fraise, par exemple. Et un fruit qui refroidit en général aussi, c'est la pomme. Qui n'est pas forcément un vrai fruit d'été. Mais aussi tous les légumes d'été. Tous les légumes d'été vont permettre de refroidir. Bon, vous avez les radis, vous avez tout ce qui peut pousser l'été. C'est, vous êtes tranquille, ça rafraîchit. Et un légume qui rafraîchit par excellence, véritablement, c'est la tomate. La tomate, c'est l'aliment par excellence pour rafraîchir. Donc c'est pour ça que ça pousse l'été. Mais prenez la tomate du mois de décembre. Prenez la tomate du mois de décembre qui vient de l'usine de la perpète. Eh bien, elle va vous rafraîchir. Si vous tombez, si vous le mangez dans une période très froide, vous allez déguster. Alors, ça, ce sont les deux types, les deux grands types. Les aliments qui vont réchauffer et d'autres qui vont refroidir. Mais les Chinois nous parlent aussi d'aliments neutres dans la nature. Donc il y a trois types d'aliments. Il y a ceux qui réchauffent, ceux qui refroidissent et ceux qui sont neutres. Alors, ça c'est pour nous en Occident, quand on parle d'aliments neutres, on dit mais ils sont tous ces Chinois, ce n'est pas ce que c'est que ce truc-là. Et en fait, les aliments neutres, ils sont valables pour tout le monde, en toute saison, quelles que soient les pathologies que l'on a. Et ça, c'est quand même intéressant. Chez quelqu'un qui a trop chaud, l'aliment neutre, il va le rafraîchir. Chez quelqu'un qui a trop froid, l'aliment neutre va le réchauffer. Vous voyez ? Et donc, c'est quelque chose de très important. Alors, on a quoi ? Vous verrez dans le tableau, il y en a bien plus que ça, mais en gros, il y en a plusieurs que je peux vous donner. Ben, vous avez la pomme de terre. Tout à l'heure, on a parlé des pommes de terre pour le circuit court, là. La pomme de terre, eh bien, la pomme de terre, c'est un aliment de type neutre. Donc, on peut en manger tout le temps, tous les jours, quels que soient nos problèmes. Mais également le chou. Tous les choux. Et aussi quelque chose qui est courant chez nous, la carotte. La carotte est un aliment neutre. Un autre aliment, mais qui n'est pas courant chez nous, ce sont les champignons noirs. Les fameux champignons chinois que l'on trouve, par exemple, dans les soupes chinoises. Hein, les Chinois font beaucoup les soupes avec les champignons noirs. Qui donc vont permettre, donc ils vous apportent un aliment neutre qui va donc vous équilibrer sur le plan des énergies. Alors on va aborder un chapitre qui est le chapitre de la saveur des aliments. Alors la saveur des aliments, pour bien comprendre la saveur des aliments, là je vais vous faire un autre schéma. Alors, ce schéma va représenter, il y a cinq parties. Ce schéma, je l'ai déjà fait et il y a un an à propos du Qigong, il va représenter à la fois les organes, les saisons, et aussi on va y mettre les saveurs. Donc on va avoir, je vais faire 5 ronds. Alors, le premier là, je mets foie. Le deuxième, je mets cœur. Le troisième, je vais mettre rate. Vous souvenez-vous, c'est rate pancréas. Le quatrième, je vais mettre poumon. Et le cinquième, je vais mettre rein. Ces organes, tous ces organes dans ces ronds, ils vont, ça va de l'un à l'autre. Donc je vous mets des flèches. Donc le foie va vers le cœur va vers la rate va vers le poumon va vers le rein retourne au foie. Donc c'est ce que l'on appelle la théorie des cinq éléments. qui a été décrite, qui a été décrite par les Chinois 500 ans avant Jésus-Christ. C'était une théorie, mais qui a été depuis vérifiée, revérifiée, etc. On l'appelle aussi maintenant la loi des éléments. Et cette loi, elle est aussi basée sur les saisons. C'est-à-dire que le foie correspond au printemps. Le cœur correspond à l'été. La race correspond à l'intersaison. Alors ça, ça demande une petite explication. Le poumon correspond à l'automne. Et le rein correspond à l'hiver. Voilà. Pourquoi une cinquième saison? Parce que tout bonnement, on passe pas d'une saison à l'autre pour tellement. On y passe par une petite phase, une petite période, qui commence d'ailleurs aujourd'hui. Cette période commence aujourd'hui, le 19 janvier. Et c'est ce qu'on appelle l'intersaison. C'est l'intersaison d'hiver qui prépare à la saison du printemps. On fonctionne en saison solaire, toujours. Le printemps commence le 5 février. L'été commence le 6 mai. La race, c'est l'intersaison, c'est une période de 18 jours qui précède chaque changement de saison. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la saison précédente, mais on va vers la saison suivante. L'automne commence le 6 août. Parfois, bien sûr, de saison solaire. Et l'hiver commence le 7 novembre. Voilà. Donc, il y a quatre périodes de 18 jours correspondant aux quatre saisons, hein, quatre débuts de saison. Donc là, on est le 19 janvier jusqu'au 5 février, on est dans l'intersaison. Mais on est encore dans la saison d'hiver. Oui. Les Chinois nous disent, à l'intersaison, on met notre véhicule au garage pour être révisé. Voilà. Hein? Donc notre corps, on le met au garage pour être révisé. Si bien que cette révision, c'est le moment, c'est pratiquement le moment où les Chinois, les médecins chinois faisaient venir les gens. Parce qu'ils déterminaient quelle était la faiblesse de ces personnes, quel organe était faible chez eux, et disait que vous viendrez à cette période, tel moment, voilà, vous viendrez à ce moment-là, et là je vous traiterai. Donc il traitait la personne pour éviter qu'elle soit malade. À ce moment-là, c'était le seul moment où les personnes étaient les médecins. Si, par contre, la personne tombait quand même malade, à ce moment-là, le médecin était chargé de soigner, mais c'était gratuit. Si on fonctionnait comme ça actuellement, on n'aurait aucun problème avec la sécurité sociale. Mais ça serait peut-être pas rentable pour une certaine catégorie de professionnels. Bon, là, je pense qu'on ne le verra pas, c'est un peu dommage, c'est utopique finalement, mais c'est un système qui a fonctionné quand même pendant des millénaires. Donc c'est possible. Bon, j'en reviens aux saveurs maintenant. La saveur du foie, c'est l'acide. La saveur du cœur, c'est l'amère. L'amère, l'amertume. La saveur de la race, c'est le doux, le sucré. Et à travers du rein, c'est le salé.
Donc
on a cinq saveurs. On en a même une sixième que je ne vous indique pas là pour le moment, mais que je vous indiquerai tout à l'heure. Elle est très importante, cette sixième saveur, et elle est surtout très importante pour l'année 2012. Vous voyez, on est vraiment plus dans la période. Hein. Alors, on va commencer par la première saveur, l'acide. Quel est son rôle, l'acide ?
L'acide,
sur le plan du son, des fonctions, du métabolisme, l'acide contracte. L'acide contracte. Donc, dans certains troubles, par exemple, on peut se servir de l'acide. Alors l'acide, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être du vinaigre, ça peut être du citron. Hein, voilà, les deux grands acides qu'on utilise facilement. Donc l'acide contracte. Par exemple, en cas de diarrhée. En cas de diarrhée, on a besoin, parce que la diarrhée, c'est une ouverture. Mais si on veut contracter, on va utiliser un acide. Et vous voyez très bien, si vous avez des selles diarrhéiques, des selles molles régulières, etc., utilisez simplement une cuillère à soupe de vinaigre. Alors on prend le vinaigre qu'on veut, condition que ce ne soit pas du vinaigre balsamique parce qu'il est sucré, hein, mais du vrai vinaigre, vinaigre balsamique il est un peu trafiqué quand même. Donc c'est du vrai vinaigre, du vinaigre de cidre, du vinaigre, même du vinaigre de vin, il n'y a aucun problème. Et donc l'acide va rétracter. L'acide va tonifier le foie. C'est-à-dire que quelqu'un qui, par exemple, n'a pas assez de bile, donc qui aura, au niveau de l'estomac, tendance à ne pas vider bien son estomac, donc il aura toujours, bon, on va manger, par exemple, à midi, et puis à 6 heures du soir, voilà, j'ai toujours l'estomac plein, il n'est pas vidé, il n'est pas bien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la bile n'est pas arrivée à la sortie de l'estomac pour que l'estomac vide vers l'intestin grêle. Donc, à ce moment-là, la personne peut très bien prendre un jus de citron. Tout simplement. Un jus de citron va lui permettre, en apportant cet acide, de tonifier le foie. Alors, avant de prendre le jus de citron, il va falloir apporter une information au foie. Et ça, c'est la subtilité de la technique des Chinois, de la médecine des Chinois, car pour les Chinois, la saveur, c'est le traitement le plus puissant en médecine chinoise, la saveur. Eh bien, il va falloir apporter l'information de l'acide au foie. Et pour ça, on va commencer par une goutte de citron sous la langue, pour que cette goutte pénètre comme une saveur par les veines de la langue et aille envoyer une information au cerveau qui va envoyer une information au foie pour sécréter sa bile. Voilà. Et ensuite, on va accélérer le processus en utilisant un jus de citron. Ah, on peut le mettre dans l'eau. Ah oui, un jus de citron dans l'eau, aucun problème. Et on peut même mettre carrément couper un citron, une rondelle de citron, et le faire bouillir aussi. Hein, faire bouillir pour avoir une décoction de citron. Ça, c'est quelque chose qui est connu de la plupart d'entre vous, je pense. Que, hein, c'est fait, bon, c'est quelque chose qui est dit un peu partout, mais voilà la raison pour laquelle ça fonctionne. Hein. Ensuite, vous avez la mer. Alors, si, ce que je voudrais quand même dire, c'est que tout à l'heure, j'ai parlé des exhausteurs de goût qui sont ces exhausteurs de goût qui sont mis par les grandes firmes industrielles dans quasiment toutes les boissons allégées, mais également dans de très nombreuses conserves, dans beaucoup de choses. Et ces exhausteurs de goût, ce sont des acides. Et ce sont des acides, et si vous prenez donc ces aliments un peu trop régulièrement, en excès, etc., vous allez être en excès d'acide. Et l'excès d'acide va abîmer le foie. Parce que le foie aime l'acide, mais l'excès d'acide va le détruire. Donc il faut jongler avec ça. Hein? Un peu, ça va, mais trop, ça nuit. C'est quelque chose d'important à bien connaître. Alors j'en viens maintenant à la mer, donc l'amertume, le cœur. Donc l'amertume, quel est le rôle de l'amertume lors du fait que l'amertume tonifie le cœur et tonifie aussi l'intestin grêle. Car là, ce sont tous les organes comme ça. Et je n'ai pas mis volontairement les viscères qui étaient à côté. Hein. Le foie, par exemple, le foie avec la vésicule biliaire que je vais vous aider. Hein. Le cœur, le viscère qui est en rapport aussi avec le cœur, c'est l'intestin grêle. L'intestin grêle. Le viscère en rapport avec la race, c'est l'estomac. Le viscère en rapport avec le poumon, c'est le gros intestin. Et le viscère en rapport avec le rein, c'est la vessie.
Donc vous voyez que
vous voyez le rôle de ces viscères. Alors, la mer va tonifier le cœur, va aider le cœur à fonctionner,
et aussi va aider l'intestin grêle.
De la même façon, c'est-à-dire que on va d'abord commencer par agir avec un aliment amer juste au niveau de la langue pour que ça pénètre, que ce soit la saveur qui pénètre. Alors moi, comme amer, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aliments amers. Hein? Mais qu'est-ce qui est amer? Le café, par exemple. Le café sans sucre. Hein? Le café sans sucre. Parce que le café sucré, lui, il va appartenir au double, hein? Au sucre. Donc, le café sans sucre, donc, on peut très bien sucer un grain de café. Tout simplement. Parce que c'est vraiment un amer. Et on n'a pas, bien sûr, on n'est pas obligé de croquer, d'avaler le grain de café. Il suffit simplement de sucer un peu, mais c'est pénétré cette amertume par les veines. Ça va donc envoyer une stimulation qui va permettre une tonification du cœur et de l'intestin grêle. Quand on sait que le cœur, c'est l'organe de la joie de vivre, c'est quand même important de l'aider, ce cœur. Il y a suffisamment de personnes qui n'ont pas la joie de vivre sur notre terre pour permettre de bon, il y a d'autres années, hein, mais très peu. Hein, il y a l'artichaut qui est amer quand même. Enfin, tu sais, une feuille d'artichaut, c'est pas très agréable. Attendez, je peux vous donner d'autres amers. Oui, le chocolat noir, le chocolat à 90%. Là, oui. Alors, l'amer. Alors, les Chinois, je vais vous dire ce que les Chinois mettent comme amer, parce que c'est pas toujours, quand on parle d'amer, il y a aussi des aliments qui sont classés comme amers, que l'on ne retrouve pas amers au goût. Hein. Mais ceux-là, on ne peut pas les utiliser en tant que saveur d'abord, si vous voulez. On va pouvoir les utiliser pour les manger après. Hein. Alors, dans les légumes, vous avez l'asperge. Le céleri, la chicorée, la scarole. Il n'y a pas de céréales, il n'y a pas de légumineuses, il n'y a pas de fruits. Dans les produits animaux, ce sont surtout les foies. Foie d'agneau, foie de porc, foie de mouton, foie de poule. Et autrement, bien le café. Le café, l'écorce de mandarine. C'est pour ça que moi je vous invite, par exemple, parce que comme on arrive peut-être un peu passé maintenant, on est dans quelques-unes, vous gardez la peau, vous la faites sécher, bien comme il faut, et vous pouvez l'utiliser après en décoction. C'est un amer qui va tonifier le cœur, qui va aider le cœur dans son fonctionnement. Et quels que soient les troubles du cœur, hein, le cœur c'est un moteur, c'est aussi des troubles d'angine de poitrine, etc. Et c'est aussi la joie de vivre, donc c'est quand même très important. Le cœur aussi, pour la médecine chinoise, c'est l'organe du sommeil. Donc il a quand même un rôle important, ce cœur. Donc il y a le café, les cordes de mandarine, la fleur d'oranger. Le thé aussi est à la mer. C'est pour ça que le café, après le repas de midi, c'est pas mauvais. Le café ou le thé, c'est pas mauvais. Par contre, le café, il ne faut surtout pas le prendre le matin. Alors, donc ça, c'est difficile. Le thé, il n'y a pas de problème avec le thé. Non. Pourquoi ? Parce que le café le matin va entraîner une excitation du cœur. Hein ? Et c'est particulièrement mauvais. Alors que le midi, c'est l'heure du cœur, si vous voulez, et là, on peut utiliser le café, il sera tonifiant pour le cœur, mais il ne va pas l'empoisonner la vie. Alors, après la saveur amère, vous avez la saveur douce de la rate. Hein, la saveur douce, c'est le sucre, tout ce qui est sucré. La rate aime le sucré, mais a horreur que ce soit trop sucré. Donc les excès de sucre vont perturber la rate. C'est une chose que je n'ai pas dite à propos de la mer va permettre aussi de faire descendre la chaleur du haut du corps vers le bas du corps. C'est-à-dire, la mer, en tonifiant le cœur, va permettre d'aller aider par la chaleur, va aller aider le rein. Si vous voulez. Voilà. Et en Qigong, par exemple, il y a un mouvement qui consiste à faire descendre l'énergie du cœur vers les reins. Ce mouvement tout simple d'abaissement et de montée. On fait monter l'eau des reins vers le feu du cœur et on fait descendre le feu du cœur vers l'eau des reins. C'est tout simple, c'est un mouvement très très simple qui permet cet équilibre. Parce qu'il y a un axe, c'est le seul axe, il y a un axe direct entre le rein et le cœur. Et c'est quelque chose de très efficace qui nous permet vraiment d'améliorer le feu. Parce que quelqu'un qui est chargé de feu dans la tête, il a les idées qui bouillonnent, il ne peut pas dormir. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Il finit par pas avoir la joie de vivre. Hein. Et ça, on le voit beaucoup chez les chefs d'entreprise aussi. Chez les gens qui ont de grosses responsabilités dans des entreprises. Ils sont toujours en train de penser, ça bouillonne de partout, ça fuse, etc. Ça finit par devenir empoisonnant pour tout le monde, mais en particulier pour la personne. Et à ce moment-là, c'est une personne qui a donc un excès de feu en permanence au niveau du cœur. Ce n'est pas étonnant qu'on voit de temps en temps, comme ça, des chefs d'entreprise qui meurent brutalement. Qui perdent la vie parce que ça les perturbe de trop. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est dommage. Surtout qu'en général, quand c'est comme ça, ils font des repas, des bons repas, etc. Et donc, ils ont aussi ce feu qui va monter encore plus. Donc, on peut améliorer cette santé quand même. Il faut qu'ils en soient conscients. Alors, la saveur douce. La saveur douce, là vous allez être content, c'est une saveur qui tonifie l'énergie. Pour se donner de l'énergie, on peut manger du sucre. Mais l'excès de sucre va diminuer l'énergie. Donc quand vous entamez une tablette de chocolat et que vous la finissez en entier au bout d'une heure, vous avez un excès de sucre et à ce moment-là, l'énergie diminue. Et ça, comment ?
Un tiers,
voilà. Hein ? Donc on n'en mange que les deux tiers, quoi. Non mais souvenez-vous bien que l'excès de sucre va entraîner une diminution d'énergie. L'excès de sucre entraîne une diminution de l'énergie, généralement. Donc à ce moment-là, on peut dire que le sucre, la saveur sucrée est un fortifiant, mais l'excès de cette saveur sucrée va au contraire être un ralentisseur.
Or,
à l'heure actuelle, dans notre alimentation, on a facilement des excès de sucre. En plus, on vient de terminer une période, là, on met encore un peu de temps, parce qu'il y a aussi les galettes des rois, etc. Et ensuite, il va y avoir des chocolats de Pâques. Enfin bon, c'est un peu toute l'année, quoi. Et on est dans un excès de ces produits sucrés.
Ah oui, on est au bout.
Bon, je vais aller un peu plus vite. On est dans un excès de ces produits sucrés. Or, c'est quand même important d'y faire attention. Les aliments qui sont classés doux, ce sont les céréales. Donc, jamais d'excès de céréales non plus. Hein? Il nous faut les céréales, mais pas en excès. Et également les légumineuses, telles que les haricots blancs, les pois cassés, les lentilles, etc. Ça fait partie des aliments doux. Alors ces aliments-là, leur intérêt aussi, c'est d'entraîner un relâchement des muscles et des tendons. Car l'excès de doux, l'excès donc de sucré, va entraîner aussi des tensions au niveau musculaire et au niveau des tendons. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut bien se souvenir. Alors la saveur piquante. La saveur piquante, elle permet, donc la saveur piquante du poumon, elle permet d'extérioriser l'énergie. C'est-à-dire que tout ce que... Et également les liquides à la surface du corps. Donc la saveur piquante, elle va nous aider, par exemple, dans la peau sèche. Dans les peaux sèches. C'est connu aussi, la saveur piquante permet d'éliminer de l'intérieur de très grosses perturbations. Vous avez bien utilisé quelquefois des grogues. Hein, des grogues, dans un grog, souvent, on met donc de l'alcool, mais souvent on met aussi du piquant, tel que de la cannelle, des choses qui vont... Et puis du gingembre. Donc la cannelle va plutôt réchauffer, et le gingembre qui va être un piquant. Eh bien, ça permet en fait de transpirer abondamment et de faire sortir toutes les perturbations qu'on peut avoir à ce moment-là dans le sang. Donc un grog, c'est pas mauvais. Bon, il ne faut pas en abuser, bien sûr. Si on prend un grog tous les jours, c'est... Hein. La saveur salée, elle tonifie le rein. Hein? Elle va aider le rein. Mais si on a un excès de sel, ça va attaquer le rein. Toujours pareil. Et en attaquant le rein, l'excès de sel, à ce moment-là, va aller attaquer le cœur. C'est pour ça que les cardiologues vous diront attention au sel dans l'hypertension. Mais jamais de régime sans sel en hypertension. Si vous faites un régime sans sel dans une hypertension, surtout si vous avez en plus un médicament diurétique, à ce moment-là, Le médicament va agir de moins en moins au fil du temps, et vous allez vous retrouver en vide d'énergie, des reins et du cœur. Donc avec une aggravation du problème. Donc, quand on a de l'hypertension, il faut toujours un peu de sel. Et en particulier la saveur. C'est-à-dire, vous pouvez très bien tremper votre doigt dans la salière, le mettre au bout de la langue et avoir de la saveur salée avant de manger. Alors, je terminerai par une saveur que l'on appelle la saveur insipide, qui n'est pas sur le tableau. Insipide, ça veut dire sans saveur. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Hein? Et la saveur insipide, c'est la saveur des gros problèmes de la rate et donc du pancréas. Donc, quand on a par exemple un diabète, surtout un diabète insulino-dépendant, hein, quand on a de l'insuline, quand on fait de l'insuline, eh bien, la saveur insipide, elle est nécessaire assez souvent, sinon régulièrement. Et alors, comment fait-on pour avoir cette saveur insipide? Les Chinois nous donnent une recette que j'aime bien moi personnellement, car la saveur insipide, elle ne va donc, il n'y a pas de saveur. Donc, s'il n'y a pas de saveur, il n'y a ni sel, ni acide, ni amer, ni doux, ni piquant. Donc, ce que vous allez absorber va mettre au repos tous les organes. Donc vous allez manger quelque chose qui ne va fatiguer aucun organe. Et ça, c'est assez extraordinaire. Non, c'est pas... Oui, l'eau, évidemment, l'eau peut être insipide, quelquefois j'ai du goût. Mais non, c'est la bouillie de céréales. Une bouillie de céréales. Bouillie céréales, vous prenez n'importe quelle céréale. Vous pouvez même mettre avec des légumineuses, c'est-à-dire des mojettes, des pois cassés, des lentilles, vous faites ce que vous voulez. Hein, et vous mettez par exemple dans une casserole, vous en mettez pas à peu près le tiers de la casserole de céréales, vous remplissez à ras-bord d'eau, vous mettez rien de plus. Hein, aucune saveur, et vous faites chauffer à feu doux jusqu'à ce que l'eau soit arrivée au contact des céréales. Donc ça vous demande du temps, hein, et ça chauffe longtemps. Ça chauffe longtemps pour que ça s'évapore. Et à ce moment-là, ça va faire une pâte, enfin une bouillie, un peu une bouillie comme on donnerait à des bébés. Et cette bouillie, il y a un moment de la journée où c'est très intéressant de la prendre, c'est le soir. Et on ne mange rien d'autre, et on ne boit rien d'autre à ce moment-là. Et ça, c'est un repos absolu pour la nuit, un repos du corps absolu pour la nuit. C'est quelque chose à faire dans toutes les maladies graves, dans toutes les pathologies, mais on peut aussi le faire. Simplement aussi, quand on a des troubles du sommeil, ça permet de récupérer beaucoup de sommeil. Quand vraiment dans beaucoup de problèmes, et vous avez peut-être vu quelquefois des gravures de Chinois, de vieillards chinois, qui sont assis, par terre, et ils ont une écuelle, ils mangent dans l'écuelle, avec rien pratiquement, et ils sont là à manger. Ce sont des gravures comme ça, et en fait ils mangent ce bouillie insipide. C'est-à-dire que plus on vieillit, plus on en a besoin. On a besoin de mettre au repos tous ces organes pour qu'ils soient libres des organes, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de pathologie. Là on est sûr, en mangeant de cette façon-là, on est sûr qu'on n'aura aucun excès sur les organes, donc on les met au repos. Donc les organes se refont de santé. Et il y a en particulier un organe qui adore ce type d'alimentation, c'est la rate. Hein? La rate, là, c'est vraiment l'organe qui, donc le pancréas. Hein? Voilà. Et ça, c'est une alimentation, je dirais que termine par cette alimentation-là, parce que vraiment, c'est celle qui nous permet de répondre à la plupart des besoins dans toutes nos maladies importantes, y compris dans les cancers. Hein, dans les cancers, dans les chimios, tout ce qu'on veut. Et c'est une recette qui est en plus très simple. Comment ? À quel rythme ? Je pense qu'il faut, il faut faire des périodes. Bon, une période de prédilection, c'est là, en ce moment. Hein, c'est 18 jours qui précèdent le changement de saison. C'est une bonne période pour le faire.
Tous les repas ou simplement
le soir ? Non, le soir. Le soir. On peut le faire, on peut le faire effectivement à tous les repas, si on veut. Mais on est, notre culture nous pose problème à ce niveau-là. Hein, c'est pas toujours facile de...
Quel genre de
céréales ? Toutes les céréales. Du blé, du maïs, de l'orge, de l'avoine, du sarrasin, tout. Il n'y a pas de préférence, c'est toutes les céréales. Et on peut donc rajouter dedans des légumineuses, telles que les lentilles, les pois cachés, les haricots blancs, etc. Le quinoa. En grains, oui. Ce n'est pas des flocons.
Non, mais pas de la farine.
Hein? Ce ne sont pas des flocons. Ni des farines. Voilà. Comment ? Ben, de préférence des céréales bio. Mais là, il faut aussi faire la part des choses. Hein. On n'a pas toujours du bio à notre disposition. Mais le plus bio qu'on peut. Oui ? Alors la quantité qu'on veut. Hein. C'est selon notre appétit. On est ici. J'entends pas. Je vais poser la question.
Vous avez oublié de cuire dans une casserole un peu tout lentement.
Oui.
On ne pourrait pas avoir le résultat à l'autocuiseur aujourd'hui.
À l'autocuiseur. À l'autocuiseur, ça cuit très vite. Donc ça doit cuire lentement.
En vrai, non.
Voilà, il faut prendre son temps. Oui. Ah là, j'ai pas entendu. Une cure de combien de jours ? On met là, par exemple, je préconise la cure des 18 jours, hein, pour vraiment nettoyer l'organisme. Mais on peut le faire le temps qu'on veut, c'est pas, on peut le faire le temps qu'on veut. Hein, il n'y a pas de problème. Mais je dirais quand même que quand on le fait, on n'est pas dans. Je reviens à notre culture. Dans notre culture, on n'est pas quand même trop là-dedans. Donc le faire par exemple un jour par semaine ou deux jours par semaine, c'est très bien. Vous voyez ? C'est pas. Il faut aussi penser qu'on n'est pas des Chinois. Comment ?
Des repas ?
Ah oui, oui, le reste de la journée, c'est un repas normal. Oui, oui. Oui. Le riz fait partie des céréales, bien sûr. Je ne l'ai pas nommé, mais c'est la céréale par excellence. Toutes sortes de riz. Ben, de préférence quand même du riz complet. De préférence du riz complet, mais les Chinois utilisent beaucoup le riz blanc.
Alors, s'il vous plaît, alors, peut-être une ou deux questions, mais il est 10h35. Je sais qu'il y en a qui ont traversé le département pour venir. Ils vont peut-être pas vouloir attendre longtemps.
Vas-y. Ah ouais. C'est juste pour dire qu'il va falloir clôturer la soirée. Donc, une ou deux questions et on se dit au revoir.
Oui.
Et si par exemple, on se bête. carottes que j'ai cherchées dans mon jardin, que je mange cru, avec un apport de vitamines, etc., peu près, bon, des avantages de rangement. Et cette carotte, je l'ai fait cuire, mijoter dans un pot-au-feu. Quelle est la différence au niveau apport, nutriments, etc., mode de consommation?
Non, mais là, je ne suis pas dans l'apport des nutriments, je suis dans l'apport énergétique. Hein? C'est autre chose. Mais, bon, là, j'ai parlé simplement des saveurs et de la nature des aliments. C'est pas, là, je ne suis pas dans les compositions, après, des aliments. Ça, c'est plus la composition occidentale. Hein? Mais, parce qu'en fait, on a besoin de vitamines, de certaines choses. Ça, c'est le domaine de la diététique occidentale, mais on n'est pas là-dedans. Hein? En diététique énergétique, on n'est pas là-dedans, on est dans l'énergie plus. Voilà. Ça n'empêche pas de manger des carottes, ça peut se faire.
Oui.
Que pensez-vous de la cuisine salée sucrée ou multisaveur?
La cuisine multisaveur, salée sucrée, bien simplement se reporter salée sucrée, on a à la fois le sucré et le salé. Donc on va agir
sur ces deux.
On va agir sur ces deux organes. Si c'est pas en excès, ça va. Bon, le salé sucré, moi je vois aucun inconvénient. Voilà. En fait, si on veut. Mais puisque là, cette question me reporte à autre chose, c'est les cinq éléments, là. Les cinq éléments que l'on voit là dans ce tableau, l'idéal dans notre assiette, c'est de les avoir, les cinq, à la fois. Et on peut les avoir aussi par leur couleur, je ne vais pas parler des couleurs, mais, hein, et dans les restaurants, par exemple, hein, restaurant qui apporte les cinq couleurs dans son assiette, c'est génial. Alors les cinq couleurs, c'est quoi? C'est pour le foie, c'est le vert clair. Pour le foie, c'est le vert. C'est le vert. Pour le cœur, c'est le rouge, le feu. Pour la race, c'est le jaune. Pour le poumon, c'est le blanc. On retrouve le qigong. Et pour le rein, c'est le noir. Donc si on a les cinq couleurs dans l'assiette, on a les cinq éléments. Voilà. Et si on a les cinq éléments, eh bien on a un équilibre. Alors ça peut être, bien sûr, il peut y avoir simplement une toute petite décoration d'un côté, avec du rouge, un petit vert de l'autre côté, vous voyez, et des choses comme ça. Et c'est et un restaurant qui prépare comme ça, c'est assez remarquable. Il y a des restaurateurs qui connaissent ce système. Et ça apporte un équilibre. Mais c'est pas difficile de le faire chez soi. Et si vous parlez du sucré, par exemple, rien ne vous empêche, par exemple, de mettre un tout petit peu de confiture pour avoir une couleur rouge, pire vers le rouge, juste un coin, quoi, un petit endroit de l'assiette, vous voyez.
Ça nous apporte à ce moment un équilibre. Allez, une dernière question éventuellement. Ah oui, la saveur importante pour 2012, c'est l'insipide. Car selon les cycles chinois, l'année 2012 est une année humide. L'humidité va commencer début février et va se terminer au mois de février l'année prochaine. Il va pleuvoir probablement tout le temps. Voilà. Hein? Donc, s'il pleut, il y a des nuages. Donc il y aura très peu de soleil. Donc on aura besoin
d'aider, parce que la rate, c'est l'organe des dépressions. Hein? La rate aime l'humide, mais a horreur de l'effet d'humidité. Donc, c'est elle qui va souffrir. D'où l'intérêt de la saveur insipide, la bouillie. C'est pour ça que je vous conseille de bien l'utiliser, parce qu'elle nous sera utile. Car ça va éviter la déprime, ça va éviter l'aggravation des diabètes, ça va éviter d'être mal dans sa peau, voilà, tout bêtement. Donc voilà. Bien, je vous remercie d'être venus nombreux. Encore désolé pour le changement de salle, mais il s'avère que ça a été nécessaire, sinon on aurait dû refuser la moitié de la salle. Ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait changer ses habitudes, beaucoup d'habitudes. Je ne sais pas quoi se faire en un jour, mais bon, avec un peu de volonté, on va essayer. On peut se donner rendez-vous l'année prochaine, quand il aura fini de nier, pour peut-être une autre conférence sur un sujet.